Je peux intervenir, monsieur.
Ouais.
Mais c'est parce que manger, on ne sait pas ce que ça veut dire.
Qu'est-ce que
Non, on ne sait
ça?
pas ce que ça veut dire.
Expliquez-vous.
On n'en sait plus.
On a cherché à manger. L'allaitement, ok. Mais après, une fois l'allaitement terminé, on a cherché à manger.
Eh
Et donc, le fait de manger, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire de l'empoisonnement. Je goûte ça, je goûte ça, je m'empoisonne
Ah
avec
ouais?
ça, ben ça, on va
Ouais,
arrêter. Je me suis
ouais, ouais,
empoisonné
ouais.
avec.
Ouais.
Ok, voilà. Mais
Sûr.
grosso modo, manger, on ne sait pas ce que c'est.
Ah ben
Il a fallu le construire,
non. Justement,
c'est-à-dire en
l'élaborer,
allant chercher ce qu'il y avait autour de nous.
le découvrir. On voit comme aujourd'hui, on connaît très bien, il a des produits qui, dans son état naturel cru, ça peut être toxique, mais qui ont besoin d'une transformation pour pouvoir être consommés. On va dire,
Le manioc, par exemple.
les maniocs, il est
Oui, le
toxique,
manioc.
oui. Ouais.
Certaines.
Il faut enlever
Il y
le
en
jus.
avait à deux genres quand même. Il y a un genre qui est
Le
toxique
manioc.
et l'autre non.
Oui.
Alors, le manioc, c'est une racine.
Les champignons
Voilà.
aussi. Il y a
Les
des
champignons,
champignons,
que peut manger.
qu'on ne peut pas
Et
manger.
oui, c'est justement par cette,
On
comment on
mange
pourrait
plus
l'appeler,
sainement.
erreur,
Une histoire de
Mais c'est
l'empoisonnement,
devenu
comme
un
on pourrait
petit
l'appeler.
peu.
Mais oui, c'est tout à fait
Je
ça.
peux
C'est
me
tout à fait
permettre
ça.
une chose quand même.
Une
Tous les
expérience.
champignons, il n'y a pas de champignons toxiques.
Ah.
Aucun. Au moins une fois.
Oui.
Non.
Ah oui,
tu ne racontes plus.
Dérivatif.
Ah ouais?
Non, manger ça.
Mais après, par exemple, moi, je sais qu'au Chili, on mange une espèce de congrio qui présente une toxine à laquelle nous, en tant que Chiliens, on est habitués parce qu'on le mange
Ah
depuis
oui.
toujours. Mais les touristes, une fois qu'ils le mangent, ben, ils sont une chiasse quand même importante. Ça ne va pas les tuer, rien du tout. Mais ils ne vont pas l'assimiler. Son corps, il n'est pas habitué à manger à la présence de cette toxine dans ce produit-là.
Oui, c'est vrai qu'on s'habitue.
Oui, c'est.
Mais dans les boîtes, on ne mange pas. On ne peut pas manger des bifes qui sont toxiques. On ne peut pas en manger, quoi.
Non, au même,
Qu'est-ce que
on
c'est?
pourrait dire
C'est
qu'on
un
va faire
aigle.
l'honneur à celui qui est mort en
Non,
plus mangeant ces
d'accord.
fruits-là. Celui-là, il est mort pour ça. Bon, on ne le touche
Il
pas, on
est
va les chercher ailleurs.
délicieux. Il est très grand.
Mais après, on peut manger
Oui.
les champignons pour, comme les hallucinogènes peuvent être
Oui,
toxiques,
ça peut être
c'est
Ouais.
comme le peyote.
Le peyote, oui.
Peyote,
El San Pedro.
Il est toxique en grande quantité et un peu, mais il rend un peu fou, ça
hallucinogène.
permet de faire la fête, ou, voilà, des rituels.
Alors, effectivement, c'est selon la culture, il y a des habitudes différentes. Mais dans le temps, pour une même culture, et on parlait des États-Unis, ce n'est pas lié seulement à la culture ou si on veut. Au mode de vie, parce que le repas manger, c'était quelque chose qui se faisait en famille, enfin en groupe tout du moins, soit en famille,
Familialement,
soit en groupe, personne ne mangeait tout seul
Seul.
dans son coin.
Bah, oui.
Il y avait quelqu'un qui préparait la cuisine, qui mettait les plats à table pour les convives.
Et ça a changé à partir de la révolution industrielle,
Et
quand de la femme aussi elle a commencé à
alors
travailler.
en France, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait pour le travail. Il y avait la pause de 2 heures à midi, ce qui n'existe pas aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons.
Au Chili, on a quoi? Une
En
demi-heure.
Espagne, c'est même plus long.
Au Chili, on a une
En
demi-heure
Espagne,
pour
c'est la
manger.
sieste.
Oui, mais avant, on avait
En
plus d'une
Espagne,
heure pour manger, hein.
en Espagne, on inclut la sieste. Donc, ça veut dire qu'il faut, si on a tant de temps, on a le temps de préparer à manger et même de digérer en Espagne.
Ouais.
Et alors que maintenant, les élèves, ils ont des cours, enfin, sans parler des salariés, hein, ils ont des cours jusqu'à midi et demi, et il y a certains qui reprennent des cours à 1 heure, à 13 heures. Idem pour les salariés. Donc, c'est impossible, d'une part, de rentrer chez soi. Même si on peut rentrer chez soi, on met quelque chose, un McDo, ou alors un truc qu'on a acheté chez McDo ou ailleurs, dans le micro-ondes, et on le mange en vitesse. Donc, c'est aussi... Bon, la culture française, la culture
Oui.
culinaire restera toujours la culture culinaire, mais maintenant elle est devenue, enfin à mon avis, elle est devenue festive. Elle est plus quotidienne. On prépare plus le poulet à midi pour la famille. Tout est déjà.
Sauf le dimanche.
Alors c'est festif.
Voilà.
Voilà.
Oui, mais ça va se réduire, ça va devenir quelque chose de plutôt exceptionnel. C'est plus
Voilà.
quelque chose de
Mais
quotidien,
qui prend de la
sinon que...
valeur.
Voilà.
En même temps, qui prend de la valeur.
Mais il faut se dire aussi que de toute façon, tout change. Ce que nous, on vit actuellement, dans 20 ans, ce sera encore autre chose. Donc,
Non, parce que
on
moi,
peut
des
pas
fois, j'ai
dire
l'impression que les
on
gens
quitte
en marquent, que ça revient un
définitivement
peu. Alors,
une
parce
période, parce
que
qu'on
moi,
peut
j'ai connu
avoir, on
ça.
peut revenir sur
Mais
des
conditions. Oui, mais les
voilà.
plats préparés cherchent à répondre à une autre façon de vivre.
Et oui.
On va dire, on s'est dit effectivement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour manger. ça doit être rapide, ça doit être bon, ça doit être pas cher. Mm. Et ça qu'on mange, c'est la réponse en réalité. Mm. C'est pas quelque chose à laquelle on se trouve à l'initiative, mais voilà. Hein, on se laisse porter pour quelque chose que non.
C'est un dommage collatéral.
Voilà. Voilà.
Oui, et puis là, ça génère aussi des maladies.
C'est un effet, c'est pas la cause.
Et puis ça génère des maladies, je veux dire, cancer et compagnie. Hein. Hum? Ah oui, oui, parce que d'abord, ces produits, souvent, c'est de basse qualité, et donc, ce n'est pas des produits bio. Hum. Et en plus, pour les garder dans des barquettes assez longtemps, bon, ils mettent des produits. Voilà, conservateur et sucre, voilà, et du sucre, et du sel, etc. Donc, en fait, en voulant gagner du temps, on perd un peu sa vie.
Eh oui.
Ouais, je voulais dire que, allez, il y a des années en arrière, la femme ne travaillait pas.
Aussi.
Donc, elle préparait le repas.
Mais elle a parlé de la révolution industrielle.
Ouais. Voilà. Et après, à partir de là, nous voilà. Je n'ai pas tout écouté correctement. Moi, mon père, quand il partait, quand il partait sur les chantiers, partait avec sa gamelle. Ouais. Il avait une gamelle qui avait plusieurs étages et il avait différentes plats dans sa gamelle.
Mmh. Il a chauffé sur le étage.
À étage. Il avait ça. Mon père était très sur les chantiers. On travaillait sur les chantiers, des plombiers.
Et c'était moins cher que les plats préparés à l'époque.
Mais on peut voir comment les dynamiques changent. On va dire même les Covid. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant à Lyon, justement, où on travaillait avec une clientèle de midi. C'était une clientèle qui avait 45 minutes pour manger. Ouais. On était ouvert que midi, on n'ouvrait pas les soirs. C'était cette clientèle-là, cette réalité-là. Mmh. Avec le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dynamique, elle a changé. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de ce public-là qui aujourd'hui travaille en télétravail, travaille de chez soi. Et l'offre que la patronne de restaurant où j'étais est proposée ne tient plus.
C'est effondré.
Ne tient plus. Ça veut dire que face à cette nouvelle réalité, il y a une dynamique qui ne répond pas aujourd'hui à la question de qu'est-ce qu'on mange, comment je le mange. Mais aujourd'hui, je l'ai vu la semaine dernière, comment sa proposition culinaire répondait à cette et que à cette réalité spécifique. Mais elle travaille à perte. Parce qu'elle essaye par tous les moyens de changer la dynamique. Elle s'inscrit ici à Uber. Elle a essayé de s'enclencher à cette nouvelle chose sans pouvoir trouver la solution. On va dire, elle est vouée à fermer. On va dire, parce qu'avec ce changement
ça a été d'un seul coup, c'était brutal aussi.
De travail. Hein.
Le changement a été brutal.
Mais il y a les restaurants qui se sont adaptés aussi à cette nouvelle réalité. Les gens, ils sortent moins, les gens, ils ont peur, les gens, ils ne veulent plus la même chose qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait? Mais Uber Eats, ils ont pris la place. Ou les gens, aujourd'hui, se sont rendus compte aussi qu'à la place d'aller manger dehors, manger chez eux, ça les coûte moins cher. Et...
Uber Eats, c'est cher aussi, si tu fais livrer.
Non, mais de faire manger chez eux comme ça. Mais quand même. Mais voilà, c'est un peu ça que je voulais vous amener autour de ça qu'on mange, pourquoi on mange et qu'est-ce qu'on mange. Et à partir de quoi on mange aussi.
Angelo, j'ai donc pu voir au Pakistan, dans la vallée de l'Indus, les rizières en terrasse.
Oui.
Qui sont comme ça, avec, c'est très joli, il y a un très beau dessin.
Si je ne me trompe pas, la culture agricole en terrasse, ça vient des
Stinkas. De l'Asie, ça.
Non, mais en terrasse. Comme l'Asie, tu sais comment ils font l'Asie.
L'Amérique latine, le fait
ils faisaient venir le long.
Les Mayas, les Incas, ils l'ont fait toujours en terrasse.
Oui, dans les montagnes, quoi.
Au Pakistan, c'était le Pakistan. Pakistan. Et pourtant, le riz, je pense que le riz à une période n'a pas été le riz au Pakistan, n'était pas l'aliment de base au départ. C'est ce qui a été l'aliment de base au départ au Pakistan, c'est la lentille. Quand je suis allé au Pakistan, j'ai mangé énormément de lentilles.
D'accord.
Parce que ça pousse en demi-montagne, la lentille. Mais en montagne, pas très haut.
Comme c'est des montagnes, comme là, le Pakistan, je reviens à ce qu'elle me dit, elle avait raison. Comme ça peut être en montagne. Comme c'est le Pakistan est en montagne, donc ils ont dû avoir des cultures de lentilles.
Voilà. C'est un pays sec.
Moi aussi, j'ai mangé des lentilles. Bon, mais écoutez. J'ai essayé d'amener à la discussion
cette autre façon de voir ça qu'on mange. Oui. Je voulais finir avec une petite phrase que j'ai trouvée ici, que c'est de Montaigne, dans les essais de Montaigne, le livre 3, Montaigne. Voilà. Montaigne. J'ai toujours du mal, Montaigne.
Montaigne à la montagne.
Là-haut sur la montagne.
Voilà. Qu'il disait, la diversité des façons d'une nation à l'autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. L'alimentation prend sens dans cette exploration de l'altérité puisqu'elle apparaît comme une particularité identitaire importante d'un groupe social par rapport à son territoire. Chaque société produit sur son territoire une alimentation qui lui est spécifique. Voilà, c'est sa façon de voir le monde. Une façon de voir le monde.
En Europe, les classes hautes, elles faisaient toute l'Europe. Hein.
Oui.
Ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'on a les mêmes produits, maintenant, à travers le monde, mais que chaque fois, ils deviennent quelque chose...
Oui, c'est pas les mêmes.
Voilà, qui deviennent des techniques culinaires différentes, que, voilà, on spécifie, on s'identifie. C'est pour ça qu'on a la tomate provençale, alors que la tomate, elle vient des Andes, quoi.
Moi, ce que je peux dire, quand au Nicaragua, j'étais surpris quand je suis arrivé, puisque j'avais été à Cuba en premier, mais là, au Nicaragua, le pain, c'était la tortilla de maïs.
Oui.
C'était, et donc, j'étais même surpris, à un moment donné, de manger la tortilla, une petite tortilla de gros comme la main. J'avais très faim, une tortilla de maïs jaune. J'ai mangé ça, j'avais plus faim.
Ah, mais ça cale, hein.
C'est pas pareil que le blé.
Oui. Je ne sais pas si c'est hors sujet.
Peut-être.
Est-ce que... Merci.
Si, c'est hors sujet.
Si, c'est hors sujet.
Dis-le quand même.
Le riz aussi peut... Enfin, on peut l'évoquer en dehors de la nourriture. Vous entendez, là oui, je pensais... Tu avais dit qu'il y a 5 vertus du riz.
Les valeurs.
Les valeurs.
Voilà. Pas de riz, hein, de l'aliment en général.
Des aliments en général. Oui. Alors... Bon, le riz, en l'occurrence, on a tous, je ne sais pas d'où ça vient, le lancer du riz pendant les mariages. Alors, je pense que c'est un symbole de fertilité.
Oui, voilà.
Si, vous avez déjà vu ça.
Ah bon,
c'est assez courant, même encore maintenant. Bon, maintenant, il y a des confettis. Hein,
ça peut être la fertilité, l'abondance.
Je pense que il y a un symbole de fertilité.
Mais après, c'est ce qu'on associe aussi aux aliments. Hier, je parlais avec une personne qui me disait, je ne sais pas, les topinambours, sa grand-mère, elle ne le mange pas.
Mais c'est pendant la guerre.
Parce que c'est associé à la guerre.
Oui, voilà.
Ça commence à revenir, mais il a fait longtemps que tous les gens ont vécu la guerre.
Parce que ça, c'est vrai aussi autour de l'identité. L'aliment, les produits peuvent être aussi une limite sociale, une limite économique, une limite de quelque chose.
Oui.
Au Chili, on a la tendance à dire que les haricots, c'est les pauvres qui les mangent.
Ah oui, voilà.
Pour autres, ils mangent le roto.
Les algues de la mer aussi.
Mais voilà.
Chayouille, tout ça.
Alors mais qu'ici, c'est l'inverse.
On fait, oui, mais on fait
parce
porter
que là-bas,
à l'aliment.
Il a tellement...
quelque chose que. C'est nous, en tant que société, que personne que les donne, on l'ajoute. On va dire, l'animal, il est là pour rien. Mais je sais pas, c'est comme la polenta au Chili, on dit que c'est la nourriture pour les cochons, c'est la freccia.
Ouais.
Quand tu amènes de la polenta à quelqu'un, tu te dis non.
Ah ben nous, le maïs, c'était pour les animaux avant.
Le maïs, personnellement, je me suis jamais
les poules, voilà. Personne ne mangeait de maïs, même les pauvres.
Je reviens au Nicaragua, quand je mangeais du maïs dans l'assiette, je disais à celle qui. Parce que je mangeais matin, midi et soir, pratiquement, avec les frioles, les maillots, les haricots. Et je disais surtout le maïs, c'est pour les poules. Elle ne comprenait pas, j'expliquais dans ma...
C'est vrai qu'en France, on donnait le maïs aux animaux, on n'en mangeait pas.
Ouais. Mais c'était vrai pour le riz.
On a commencé à manger dans les années 80-70,
C'était vrai pour le riz de Camargue, ils ne mangeaient pas. Ouais. C'était pour les animaux au début. Quand on a fait venir ces travailleurs comme ça, du Vietnam, de Cochinchine, tout ça, les personnes qui sont venues, elles ont été en travail forcé, mais c'était... pour le riz, pour les animaux. Mmh. Et c'est en améliorant qu'ils ont dit, ben tiens, on peut le manger. Et c'est devenu sinon tout le reste du riz, il est pratiquement en France importé. Mmh. Et à Cuba, c'est importé. C'est la culture espagnole qui fait que à Cuba, ils mangent le riz.
Ouais.
Mais ils ne sont pas tournés vers la mer, ils mangent presque pas de poisson. Donc les Espagnols en mangeaient un petit.
Ça dépend de la région d'Espagne.
Et une évolution de la culture, par exemple, à Arles, je ne sais pas depuis combien de temps ça a lieu, mais pas depuis des siècles, puisque le riz est mangé depuis peu. Il y a la fête du riz. C'est une fête très importante dans la ville.
Feria de rue.
Où tous les commerçants doivent orner leur vitrine en rapport avec... Alors, je pense que c'est à la date de la récolte du riz. Hein, je pense que c'est à peu près à cette date-là. Mais c'est une fête très importante qui concerne tous les Arlésiens. Mais qui est... je pense que les jeunes Arlésiens pensent que c'est que ça date de leurs parents, de leurs grands-parents, mais c'est faux. Puisque le riz de Camargue, il est très récent. Et il a induit... une nouvelle pratique culturelle qui est la fête du riz. C'est comme avant, il y avait la fête des moissons.
Dans la vallée de Pau, la plaine du Pau, en Italie, hein, tu sais, la vallée là, il y a énormément de rizières aussi. Hein,
oui.
Parce qu'en fait, le climat permet l'été de pouvoir faire une récolte.
Dans le nord de l'Italie, le risotto est très présent, hein, du côté de Bologne, Firenze, tout ça.
Voilà.
Et bien voilà. Ben très bon, intéressant, ouais. Ça donne à parler, les riz, hein, c'est qu'un petit grain comme ça. Après, il ne faut pas oublier, la plantation de riz prend les 10% de toute la terre, comment ça s'appelle ?
L'alimentation
agricole. La superficie agricole du monde, c'est les 10%, hein, c'est la riz.
Surface agricole cultivée.
Et en quantité ?
En quantité, je ne saurais pas vous dire.
Ça doit être mais c'est l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine.
Mais c'est pas ça.
Tout le monde mange du riz.
Moi, je sais que même l'année 2008, blé, hein, il y a eu des pays qui ont eu un rationnement, on dit.
Rationnement
de riz. Voilà, parce que la consommation, elle est beaucoup plus grande que la production aujourd'hui. Voilà.
Et c'est coté en bourse.
Et oui. Et je pense que ça va revenir parce que même on se disait à propos de ce changement de réalité, on voit les conflits aujourd'hui entre la Russie et le monde entier contre la Russie. La Russie et l'Ukraine, ils sont parmi les plus grands producteurs de blé et de maïs.
Comment ça s'appelait ?
Et on va voir comment...
Le grenier à blé de l'URSS, c'était
l'Ukraine. Ceci dit, c'est le Canada aussi.
Oui.
Et dernièrement, si le blé a augmenté beaucoup... C'est parce que la récolte de l'année dernière au Canada, c'est-à-dire au centre du Canada, avec Grande Plaine, hein, bien avec le changement climatique, ça a réduit de 30% la récolte. Donc ce qui est rare est cher. Et l'Ukraine, par exemple, alors au niveau mondial, je viens de le lire, j'aime bien la mémoire des chiffres, c'est 12% de la production mondiale de blé en Ukraine, et la Russie, c'est 17%. Donc tu vois un peu, c'est 30% quand tu prends les deux pays.
Alors on va commencer. C'est énorme.
Et c'est ça qui va poser un énorme problème, parce que s'il y a un rationnement, tu as tous les pays arabes qui attendent le blé. Hein. Tu sais qu'eux, ils mangent du blé.
Ils mangent du riz.
Du riz, mais aussi du blé. Hein. Du blé, pour faire
ce moule. Hein.
Et résultat, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la révolte. Tu sais, la révolution de la faim là, en 2008, qui a fait bousculer tout le... Parce que c'était la cherté du blé.
On voit comme aujourd'hui, les plus grands soutiens qu'a donné la Chine à la Russie, c'était avec du blé.
Oui.
On dit, parfois, on pense aux armes, on pense à tout ce que vous voulez, mais si on mange
l'arme
pas,
alimentaire,
ça va plus vite que la bombe nucléaire, peut-être.
Mais ça s'appelle l'arme alimentaire.
Et Staline aussi, il a mis en place la guerre de la faim quand elle était, je pense, 100 millions de morts de faim. Et on voit la place qu'est la nourriture, parce que je pense qu'à force de manger tous les jours, comme ça ne nous manque pas, ça devient imperceptible. Mais on ne se rend pas compte de comment toute une petite chose dans cette modifie notre façon de voir le monde, de manger.
La nourriture va être de plus en plus importante au niveau mondial. C'est-à-dire que l'impact du changement climatique et aussi, surtout, hein, et puis de la population qui ne fait qu'augmenter, ça impacte. Et tu vois, en Chine, par exemple, tu vois, Xi Jinping, qui est le président... Eh bien, il y a un an, il a fait une allocution. Il a dit, maintenant, les Chinois ne seront pas censés manger que du riz. Parce que et pourquoi ? C'est parce que les terrains, les riziculture, ne suffisent plus à nourrir. Parce que d'une part, il y a le changement climatique. Et puis, dans la partie la plus riche, on a sacrifié beaucoup de terrains agricoles. Parce que l'expansion industrielle de la Chine s'est entamée sur... Et donc, ils se sont dit, en productivité alimentaire, eh ben, le riz est inférieur à la patate, à la pomme de terre. Et Xi Jinping a dit, dorénavant, dans les années à venir, eh bien, les Chinois devront, non pas complètement abandonner le riz, non, mais une partie de leur consommation devra se faire
par la patate.
Mais en Italie, après et pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les agriculteurs ils étaient obligés de garder une partie de ces terres pour mettre du maïs et la pomme de terre, parce que ça poussait plus vite.
Oui.
Mais tant qu'on est là, moi j'ai réussi à trouver encore du riz dans les supermarchés. Oui. Je vous invite à goûter ces trois choses que j'ai pu préparer aujourd'hui.
C'est du riz basmati.
Sauf celui-là.
C'est du riz indien.
C'est pas la même variété.
Mais enfin, il y a la Camargue à couleur.
Celui-là, c'est de Camargue. Ah non, c'est de Camargue. J'ai la boîte. C'est de la Camargue et ça, c'est un riz arborio. C'est de riz à risotto parce que.
Alors, il y a aussi, j'ai vu ça, mais j'en ai jamais mangé. Je ne sais pas si vous connaissez.
C'est quoi
ça se vend en gros paquets, ce sont des brisures de riz.
Ah, mais non, c'est pour les poulets. Ça, c'est en Afrique.
Qu'est-ce que c'est ça?
Mais non, mais il me semble que j'ai
si
vu ça dans les
sauces.
Ah bon? Ça ne mange pas?
C'est les riz qui arrivent en Afrique. C'est les riz qui se mangent en Afrique.
Il me semblait que
j'ai un ami.
C'est le riz cassé, voilà.
Oui, c'est le riz cassé. Chez lui, on déclarait que c'est pour les animaux. Mais c'est les riz qui se mangent en Afrique.
C'est pour les animaux aussi. Mais en Afrique, ils le mangent.
Et c'est les ONG qui mangent.
Alors, c'était pas celui-là dont je voulais parler.
Ah oui?
C'était le riz noir.
Ah oui, il doit. Oui,
parce qu'il y a un
Camargue. Ah oui, elle connaît beaucoup.
Non, je ne connais pas trop.
Mais toi, tu fais cuisiner ces riz. Bon,
c'est dans les lacs. Et voilà. C'est une céréale qui n'est pas exactement comme le riz et qui ramasse avec le canoë. Et ils ramassent comme ça. Là, ils font tomber des graines dans le canoë. Et après, ça se mélange au riz blanc. Ça fait riz blanc, riz noir.
Ah oui, parce que le riz dans les pays froids, ça ne pousse pas normalement.
Pas pour finir, mais pour continuer. Je vous invite à passer chez Laurence.
Ah bah oui, voilà, c'est moi qui
pour prendre les petites fiches et la dégustation. Oui, il faut soutenir l'activité quand même.
C'est moi
il faut soutenir l'activité quand même.
C'est combien,
4 euros? C'est
4 euros. 4 euros la dégustation.
Ça y est,
il va
falloir que je
rappelle pour tout le monde.
Ah oui, tout à fait.
Un lieu associatif. Donc ça veut dire que, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de serveurs et serveuses affairés pour venir débarrasser derrière nous et nettoyer derrière nous. Donc on compte sur chacun, évidemment, pour l'autonomie de faire sa petite, son petit nettoyage, d'aller poser sa petite assiette.
Je propose que pour une fois, ce soit les hommes aujourd'hui.
Nous sommes. Moi, je fais ma devoir.
Ça sera une journée spéciale.
Non. Il faut faire moitié de l'année.
Elle a des origines indiennes.
Fond de chérie.
Allez, bon, écoutez.
J'ai les 4 euros.
Mais écoutez, je vous invite à aller chez Laurence. Mais, ça vous plaît?